Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Mon invité cette semaine est écrivain, certes, mais il incarne surtout l'autre côté de la barrière, le journalisme littéraire. Bernard Pivot est ici, chez lui, on le retrouve dans un instant. Ensuite, nous lirons un roman culte, bien sûr. Philippe Dussault lira la première page de L'Aiguille creuse, une aventure d'Arsène Lupin, c'est d'actualité. Nous visiterons la bibliothèque de Jean-Louis Fournier, l'homme de la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, et surtout écrivain. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours, chez Christophe Daniel cette semaine. Librairie La 25e Heure, et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman Jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Passé 60 ans, quand on se réveille sans avoir mal quelque part, c'est qu'on est mort. Je ne sais plus qui a dit ça, mais l'aphorisme aurait pu être en exergue du livre de mon invité. Ça s'appelle « Trois points de suspension ». Mais la vie continue, chez Albin Michel, et l'auteur. C'est le boss, c'est le maître des journalistes littéraires. Bonjour Bernard Pivot.
Bonjour.
Comment ça va?
Eh bien, votre question me prend... Je l'attendais.
Ben voilà.
Et parce que ce n'est pas une question de politesse, votre question, c'est une question médicale. Quand on a plus de 60... Quand on a 85 ans, que en face de vous, quelqu'un vous dit « Comment allez-vous ? » Évidemment, vous êtes prêt à énumérer toutes les pannes de vos systèmes nerveux, musculaires, auditifs, etc., etc. Donc, je vous épargnerai cette liste et pour vous dire « Bon, bah, ça va coup-ci, coup-ça.
Ça se maintient. Oui, effectivement, je vous posais la question parce que c'est comme ça que s'ouvre votre roman. Effectivement, à un certain âge, la question « Comment ça va ?» implique une réponse longue, voire interminable. Alors qu'avant, on répond simplement, quelles que soient les circonstances, « Ça va et toi ?»
Voilà.
Mais c'est pas plus mal, ça aussi. On va y revenir, mais on a un peu plus le temps. Et donc, on a le droit de répondre à cette question quand on vieillit.
Oui, bien sûr qu'on a le droit, oui, bien sûr, mais il y en a d'ailleurs qui en profitent justement pour répondre longuement. Et ils vous font une réponse de 10 minutes, et à la fin ils disent « Bon, à part ça, ça va, et toi ?» Oui, donc on revient quand même aux fondamentaux.
Au point que l'un des personnages propose de limiter le temps dévolu aux problèmes de santé, et donc à la réponse à cette question. Mais alors, il y a tous les points de vue dans ce livre-là, il n'y a pas de certitude. Mais moi, là, je trouvais ça plutôt pas mal de prendre son temps pour expliquer comment ça va, parce qu'on peut partir de la santé et puis ensuite partir sur des questions plus larges, voire métaphysiques.
Oui, non, mais là, c'est deux copains, c'est deux vieux copains qui se connaissent depuis longtemps, donc ils souffrent de la même chose, l'un de la prostate, l'autre de l'estomac, et donc ils connaissent très bien la réponse. Simplement, quand il y en a un qui peut ajouter... ou j'ai eu quelques acouphènes, ou bien j'ai eu un torticolis, là, ça devient un peu plus intéressant. Mais ressasser tous les jours, quand ils se voient, leurs problèmes d'estomac et de prostate, franchement, au bout d'un moment, on n'en peut plus.
Non, mais en fait, je vous pose la question, parce qu'on va y venir, c'est un peu votre alter ego, le personnage central, le narrateur. Et parfois, on a tendance à éluder la question « ça va ?» parce qu'on se dit qu'on va dire des banalités. Et comme vous avez un passé, et même un présent d'intervieweur, vous avez envie que les réponses soient concises, qu'elles aient un intérêt, que ce soit tout de suite dans le cœur du sujet, alors que la banalité peut mener à ça.
Oui, bien sûr, mais au fond, il y arrive un moment dans la vieillesse où l'état de santé devient banal. C'est une banalité de dire bah oui, j'ai eu des insomnies, bien sûr, j'ai un petit peu d'arthrose dans le poignet gauche, etc. Ça devient une banalité que finalement d'énumérer des douleurs qui font partie de l'âge, tout simplement.
Ça fait une mauvaise émission de télé, quoi.
Alors,
le narrateur, Guillaume Jurus, est un éditeur à la retraite, mais quand même, il vous ressemble étrangement. Faut garder l'ambiguïté, ou est-ce qu'on peut dire que c'est votre alter ego, je est un autre? Comment vous répondez à ça?
Non, c'est moi, en partie, mais par pudeur, je ne voulais pas dire je, etc. Et d'un seul coup, parler de mes artères, parler de mes pieds, etc. Donc, moi, j'ai préféré me créer un double qui me ressemble beaucoup, qui est aussi un prix de littérature, puisqu'il était éditeur. Et puis, c'est un jeu de construction. Je pense que les personnes âgées doivent continuer de jouer. Et ça, c'est un mécano psychologique que de prendre un personnage et d'en faire son double, mais pas tout à fait son double, un petit peu différent.
C'est aussi pour ça que vous avez choisi la forme du roman, pour pouvoir intégrer plusieurs personnages, parce que c'est un espace de liberté plus grand.
Alors je dirais roman, je dirais plutôt une chronique romanesque, parce qu'il n'y a pas d'histoire au sens romanesque du terme, mais c'est plutôt une chronique d'un groupe d'amis. Il y a 6 octogénaires, 2 couples, un veuf et un divorcé, un septuagénaire et une nonagénaire. Et donc ils sont 8 et... Ils s'aiment bien, ils font des repas ensemble pour leurs anniversaires, ils s'appellent, ils se rendent service les uns aux autres. Et ils ont tous les 8, enfin pas la nonagénaire parce qu'elle est sortie, elle, des grandes épreuves, mais il y en a 7 en tout cas qui ont la trouille de ce que j'appelle les CI2A, c'est-à-dire le cancer, l'infarctus, l'ABC et l'Alzheimer. Ils vivent quand même dans cette trouille.
Les 4 cavaliers de l'apocalypse.
Oui, les 4 cavaliers de l'apocalypse. Tous les 7 ou les 8, ils ont des petits problèmes, il y a ceci qui ne va pas, de Rhin, etc. Tous les auditeurs qui nous écoutent, enfin qui ont un certain âge, savent très bien que notre vieillesse est un peu gâchée par toutes ces petites douleurs comme ça qui vous reviennent. Mais ils ne sont pas encore atteints par ces grands fléaux de la vie, de la fin de vie.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure en citant cet aphorisme. Quand on a des petites douleurs, ça veut aussi dire qu'on est encore en vie.
Oui, ah, mais le grand privilège de l'âge, c'est qu'on est encore en vie. Enfin, moi, je me dis, tous les matins, je me réveille et je me dis... Ben, je suis encore en vie. Ma journée, j'espère que ce sera une très bonne journée. Et alors, il se passe quelque chose qui est assez intéressant. Là, c'est un peu l'écrivain qui parle, ou le journaliste, comme vous voulez. C'est que chaque matin, je me réveille, je me dis, je connais mon sujet, la vieillesse, un peu mieux que la veille. Mais demain, je connaîtrai encore mieux. Mais il arrive bien un moment où il faut écrire le livre. On ne peut pas se dire, je vais attendre les jours, les années, parce que plus ça ira, plus je connaîtrai mon sujet. Non, il y a un moment, il faut quand même passer à l'acte.
Ça peut être une bonne excuse pour procrastiner aussi. Ça.
Voilà.
C'est effectivement tous ces personnages, ils forment une confrérie. Ça s'appelle les JOP, les jeunes octogénaires parisiens. On l'a dit, il y a Septu, il y a Octo, il y a Nona, mais ils ont tous une conception différente de la vieillesse. Mmh. Et celle du narrateur, elle est plutôt optimiste, effectivement.
Oui, bien sûr, oui, parce que alors ils ont la chance quand même d'avoir d'être socialement plutôt à l'aise. Ils ont la chance de ne pas avoir encore une très grave maladie. Et puis surtout, ils sentent le besoin quand même d'avoir cette amitié de gens de l'âge, une sorte de confort, confort amical, confort que donne l'amitié. Et alors, je les ai appelés jeunes octogénaires parisiens, mais je vois très bien qu'on pourrait inventer les jeunes octogénaires bordelais ou bourguignons, les jeunes, les Lillois ou les Lyonnais, vous voyez, donc mes jobs sont représentatifs de l'ensemble des personnes âgées.
C'est drôle que vous me disiez ça, c'est drôle parce que c'était une question qui venait plus tard, mais justement j'allais revenir sur ce parisien des jobs. Vous êtes né à Lyon, vous avez vécu longtemps à Lyon, vous n'êtes pas totalement parisien, mais vous y habitez, mais je veux dire votre cœur est aussi dans le Bordelais, enfin dans le Beaujolais, etc. Mais quand même, Paris, il y a une histoire d'amour entre vous et Paris.
Oui.
C'est un des personnages principaux du roman, d'ailleurs.
Oui, bien sûr, oui. Oui, quand je suis arrivé à Paris, j'avais 20 ans. Et Paris m'a changé. J'étais à Lyon. Dieu sait que j'aime beaucoup la ville de Lyon. Mais j'étais un peu contraint par la famille, par les amis. Paris m'a, d'une certaine manière, ouvert à la fois le cœur, les yeux et l'ambition. Alors qu'à Lyon, j'étais un petit peu replié sur moi-même.
Alors, c'est une question de point de vue, en fait, la vieillesse, puisqu'il y a un bon exemple. Combien mesurez-vous, Bernard Pivot ?
Je mesure 1m70, mais je ne mesure plus 1m70, je mesure 1m68, parce que je me suis tassé.
Voilà, dans le roman, le narrateur a un problème de tassement, parce qu'il mesure 1m80, mais en réalité, il a toujours mesuré 1m79, mais il a toujours menti là-dessus en se disant, bon, à 1 cm près, ça va quand même. Et il était très fier de mesurer 1m80 jusqu'au jour où le médecin lui a dit qu'il s'était tassé, qu'il faisait plus 1m78.
Oui.
Mais c'est ça ce qui est intéressant, c'est que le narrateur se dit aussi que les choses se tassent seulement la taille.
Mais pas seulement la taille, écoutez, les passions se tassent, les rancunes se tassent, c'est plein de choses qui avec l'âge se replient sur elles-mêmes, et donc le fait de se tasser, le corps se tasse, mais aussi l'esprit se tasse un peu. Mais autant le corps, on n'y peut rien du tout, tandis que l'esprit, il faut lutter contre. Ah, il faut lutter contre le fait de se tasser. Il faut, si on a quelques passions, il faut au contraire continuer de les nourrir. Et si on a des centres d'intérêt, il faut continuer de leur porter une attention considérable. Donc, tassons-nous le corps, parce qu'on ne peut pas faire autre chose, mais l'esprit, c'est important. Il faut qu'il reste ouvert.
Et c'est ça, ce roman, c'est explorer à la fois les bons et les mauvais côtés de la vieillesse. Et voilà, essayer d'en tirer parti. Restez avec nous, Bernard Pivot. On retrouve Guillaume Jurus dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, toujours avec Bernard Pivot, qui publie 3 points de suspension, mais la vie continue, chez Albin Michel. Il y a un chapitre intitulé « De la lenteur ». Tout devient plus lent quand on vieillit, écrivez-vous, à commencer par les gestes, bien sûr, mais paradoxalement, on a plus de temps. Et je lis un extrait. Je constate avec amusement que lorsque nous avons l'essentiel de la vie devant nous, nous courons comme si nous avions peur de manquer de temps. Et voilà que, alors que le temps nous est maintenant mesuré, que le restant de son capital s'amenuise de jour en jour et que nous nous retenons de tendre le bras de crainte de toucher notre ligne d'horizon, nous nous laissons aller à goûter, à condition qu'il ne soit pas subi, les plaisirs de la lenteur. Tout est dans le « à condition qu'il ne soit pas subi ».
Voilà, puis bon. Oui, moi j'ai découvert ça. J'ai toujours été affairé comme ça, gagner du temps le plus possible. Et puis là, on se dit, mais mes mains vont moins vite, mes gestes sont plus lents. Alors le corps, là aussi, on n'y peut rien. L'esprit aussi est un petit peu plus lent. Par exemple, quand je lis, et parfois, il me semble que je manque parfois d'un petit peu d'acuité et qu'il faut que je revienne en arrière pour bien saisir ce que l'auteur a voulu dire. Et donc, il y a une lenteur à la fois du corps et une lenteur de l'esprit. Alors, la lenteur du corps, à mon avis, est très agréable. On prend son temps. Pas pour faire ceci ou pour faire cela, pour se raser. Moi, avant, je me rasais à toute allure, je petit déjeunais à toute allure, je courais.
Ah oui, là, il s'assoit pour petit déjeuner, le héros.
Oui, mais c'est agréable. Alors, quand vous devenez vieux, le petit déjeuner devient un des repas essentiels de la journée. Presque le repas essentiel. Parce que autrefois, il a toujours été bâclé. Vous savez bien, il y avait la femme ou l'homme, ça dépend, qui enlève le couvercle du pot de yaourt pour aller plus vite, etc. Là, maintenant, je prends mon temps pour ouvrir le pot de yaourt, etc. Et puis, pour allonger mes jambes sous la table, pour me lever, pour faire rôtir du pain, etc. Donc, c'est assez agréable. Mais même tous les gestes. Alors, s'habiller, par exemple. S'habiller, c'est plus difficile parce que vous risquez de vous casser la figure quand vous enfilez votre slip ou votre pantalon. Vous tombez sur le parquet ou sur la moquette. C'est un peu embêtant. Donc, alors, à la fois, comme vous ne voulez pas vous déconsidérer devant vous-même, vous faites attention. Vous prenez le temps de vous habiller, etc. Donc, à la fois, c'est une contrainte, mais c'est une jolie contrainte, moi. Moi, j'aime bien ça, je me dis, c'est lent, maintenant. Ben oui, tu es lent, mais c'est pas grave. Alors, par exemple, ce qui est vrai aussi, c'est par exemple, on descend d'une voiture, on descend beaucoup plus lentement qu'avant. Avant, on ouvre la portière, on se dit, hop, ça, maintenant, il faut descendre, mettre son pied par terre, etc. Alors, il y a des choses extraordinaires. Ne plus jamais monter dans une voiture sportive basse, vous voyez, que vous êtes devant. Alors là, parce qu'il faut sortir avec, comme le nouveau-né sort du ventre de sa mère par les fesses, là, vous sortez par les fesses. Et alors, les gens regardent ça, soit ils pouffent de rire, soit ils appellent des pompiers. C'est l'un ou l'autre, c'est effrayant.
Vous prenez aussi le temps d'écrire et d'écrire juste. J'ai lu tout à l'heure un extrait, on a entendu le contenu, mais est-ce qu'on a fait attention à la forme ? Nous nous retenons de tendre le bras de crainte de toucher notre ligne d'horizon.
Oui.
C'est un bel aphorisme, ça. Il y a des bonheurs d'écriture aussi. Est-ce que vous prenez plaisir à écrire ?
Oui. Là, je suis même très content que vous me posiez cette question parce que les noms nous échappent quand on vit. Les titres de films, les titres de... Oh là là, on ne sait plus. Ça fout le camp. Et réunissez 4 octogénaires à déjeuner, le repas va ressembler à un quiz pour personnes âgées.
Sauf pour un qui est surnommé Bic de la Mirandole.
Bic de la Mirandole,
parce qu'il a une super mémoire.
C'est le traducteur. Alors, il a une bonne mémoire, mais il y a toujours quand même des gens qui gardent une... Par exemple, mon ami Georges Samprin, il me sidérait parce qu'il connaissait, il se rappelait tous les noms des révolutionnaires russes des années 40, 50, 60, etc. C'est incroyable. Donc, les noms vous échappent. Mais quand vous écrivez, eh bien, vous gardez cette maîtrise quand même des noms et des mots. Là aussi, vous allez un peu plus lentement. Oui, bien sûr, mais pourquoi pas ? On a le temps, on a le temps. Mmh. On est vieux, on a le temps. Alors, vous êtes jeune, vous n'avez pas le temps. Vous êtes vieux, vous avez le temps. Eh bien, c'est assez agréable de biffer, de dire, tiens, cette phrase n'est pas très bien, j'ai envie de revenir, etc. Vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas un patron, par un éditeur, par tout ce que vous voudrez. Vous avez un bon usage des mots sous la plume.
C'est pour ça que vous n'avez écrit que deux romans ?
C'était fort de temps ? Non, parce que j'ai pas l'esprit romanesque. J'ai pas l'esprit romanesque. Enfin, surtout, je ne sais pas, comme par exemple Balzac. Balzac, on sait que lorsqu'il visitait un appartement, 10 ans après, il était capable de restituer par les mots exactement l'appartement tel qu'il était. Moi, je suis incapable, je ne vois pas, je ne sens pas, je ne sais pas nommer les choses, je ne sais pas. Donc, un romancier qui ne sait pas restituer le paysage, l'appartement, la figure de tel ou tel personnage, son habillement, etc., c'est un mauvais romancier. Donc, j'ai toujours préféré être un bon journaliste plutôt qu'un mauvais romancier.
Et ben justement, je me disais que vous aviez peut-être le complexe du journaliste littéraire qui se dit... je ne peux pas vraiment écrire un roman puisque je passe mon temps à interviewer des romanciers. Il y a quelque chose de bizarre.
Vous n'avez pas tort de dire ça parce que le seul roman vraiment que j'ai écrit, j'avais 22 ans, j'étais pas encore journaliste. Et quand j'ai commencé à lire vraiment les romans contemporains, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi le roman.
Alors la mort, bien sûr, est présente dans le livre. Mais elle apparaît au narrateur sous la forme, je cite, d'une sorte de sumo féminin gigantesque, nu, avec des seins énormes qu'elle agite et dont je vois bien qu'ils auront pour tâche de m'étouffer.
Ben oui, on a tous nos fantasmes. Les sumos, pourquoi il n'y a pas de sumo femmes ? Alors les sumo hommes, moi, m'effraient. Hein, franchement, je n'ai jamais compris Jacques Chirac qui adorait les sumos.
Ah, il y a une beauté quand même.
Je me disais, mais quelle perversité a-t-il cet homme politique pour adorer les sumos ? Mais les sumo femmes n'existent pas. Pas à ma connaissance en tout cas. Et de fait, je me disais qu'un sumo femme qui vous vient, que vous voyez à la fin de votre vie, normalement, elle ne va pas vous épargner.
Justement, à propos de la mort, il y a une nouvelle de Stephen King que j'aime bien, qui a été publiée dans Le Bazar des mauvais rêves de mémoire. Je vous la raconte rapidement. Oui. C'est l'histoire d'un homme qui a 65-70 ans et qui vient de mourir. Et puis, il arrive au ciel. Il y a un petit bureau, guichet de carte grise. Il arrive et il y a le type en face qui lui dit « Bah voilà, vous voyez, il y a une porte à droite, une porte à gauche. Si vous prenez la porte de gauche, vous revivrez exactement la même vie, mais alors exactement à la seconde près, à l'événement près, tout pareil, sauf que vous ne vous souviendrez pas, évidemment, que vous l'avez déjà vécu. Et puis la porte de droite, bah, ça on ne sait pas, c'est à vous de découvrir en l'ouvrant. » Et le type choisit la porte de gauche, et quand il s'en va, le guichetier dit « Ils choisissent tous celle-là. » Est-ce que vous choisiriez la même porte pour revivre exactement la même vie ? Ou est-ce que vous seriez curieux d'aller voir ailleurs ?
Alors la prudence me dirait « oui, prends la porte de gauche », mais le journaliste me dirait « prends la porte de droite ». Je ne sais pas, je crois que c'est difficile à dire, mais il me semble que je serais attiré par la porte de droite quand même, je pense.
Vous avez toujours votre chronique dans le Journal du Dimanche,
oui.
Et tant mieux. C'est aussi important pour vous de partager une lecture que la lecture elle-même, c'est pour ça que vous continuez ?
Ah oui, non, là aussi, c'est effectivement partager la lecture, partager ses émois, partager ses émotions, partager son plaisir, c'est essentiel. Enfin, j'ai fait ça depuis que je suis entré au Figaro littéraire à l'âge de 23 ans. J'essaye de faire partager mon plaisir. C'est pourquoi je fais plus d'éreintement aujourd'hui. Quand j'étais jeune, je faisais qu'un peu d'esprit caustique comme ça sur des auteurs connus et reconnus. Moi, maintenant, je ne fais plus ça. Je préfère que dire aux gens, voilà, j'ai aimé ce livre, voilà pourquoi, si ça vous intéresse, suivez mon conseil. Mais c'est assez agréable d'avoir encore un peu d'influence à mon âge.
Il y a de ça aussi ?
Oui, il y a de l'influence, avoir de l'influence, c'est important. Je n'ai pas de pouvoir. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas un homme de pouvoir. Pouvoir, ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, quand on m'a offert de diriger une chaîne, j'ai rigolé, j'ai dit, vous me plaisantez, je n'ai pas envie de m'emmerder pour le restant de ma vie à diriger une chaîne. Non, mais l'influence, c'est dire à une personne, voilà, j'ai bien aimé ce livre pour telle et telle raison, mais la personne n'est pas obligée de me suivre. Hein. Elle peut trouver qu'au contraire, mes raisons sont détestables et qu'elle ne lira surtout pas ce livre. Mais tant mieux, pourquoi pas, peu importe. Mais l'essentiel, c'est de faire partager son sentiment vis-à-vis d'un livre. Et puis en plus de ça, j'ai l'impression de continuer ma vie. Quand j'étais au Figaro littéraire, j'avais 23 ans, comme je viens de vous le dire, et de temps en temps, je faisais une petite note sur un petit livre, parce que moi, comme je débutais, je n'avais pas le droit au grand livre. Un petit livre, faire une petite note, etc. Et j'ai continué avec la télévision d'avoir ce plaisir d'inciter les gens à lire tel ou tel livre. Mais l'essentiel, c'est de lire. L'essentiel, c'est d'acheter des livres et de les lire et d'y prendre plaisir.
Un jour, Will Self, l'écrivain britannique, m'a dit que il pensait que la littérature, bientôt, ce serait un passe-temps pour une petite niche comme ça de gens, un peu comme le jazz ou la musique classique. Vous en pensez quoi, vous ?
Non, je ne crois pas. Non, d'ailleurs, actuellement, les événements prouvent le contraire. Regardez, le prix Goncourt est un succès considérable. Les gens se sont rués dans les librairies dès que le confinement a été terminé. Ils lisent, ils ne lisent pas que des choses sur la médecine, non ? Ils achètent des romans. Le prix Goncourt, cette année, qui est un bon concours, bénéficie d'une attention incroyable. D'une certaine manière, l'un des gagnants du Covid, c'est Hervé Le Tellier, le prix Goncourt.
Vous me tendez la perche, c'était votre première année où vous n'étiez pas au Goncourt. Mmh. Et d'ailleurs, personne n'était chez Drouan cette année à cause du Covid. Mais enfin bref, qu'est-ce que ça vous a fait d'être un peu à l'extérieur
Rien du tout. Non, mais moi, je pars de moi-même. Je suis parti, j'ai quitté la télévision. Alors on me dit, mais est-ce que vous n'avez pas d'amertume? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, j'ai fait mon temps à la télévision. Je suis parti de moi-même. Je n'ai aucune amertume, aucune maigreur, aucun regret. Et là, c'est la même chose, le Goncourt. J'ai dit, je suis depuis 14 ou 15 ans, je sais pas, ça suffit, je laisse ma place à quelqu'un d'autre, de plus jeune. Donc là aussi, aucune nostalgie, aucun regret, etc. Mais non, mais c'est pas parce qu'on abandonne une chose qu'on en a un regret à vie.
Au contraire. On a fait ce qu'on avait à faire.
On prouve son indépendance, on prouve sa capacité à rompre des liens qui vous ont enchanté pendant quelques années, et puis surtout de passer à autre chose.
C'est une des leçons d'ailleurs de Mais la vie continue chez Albin Michel. Vous restez avec nous si vous voulez bien, Bernard Pivot. Oui. Dans un instant, c'est le livre culte. On va lire Arsène Lupin.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est livre, toujours avec Bernard Pivot. Mais la vie continue, c'est son nouveau roman chez Albin Michel. Il est l'heure du livre culte et la vie d'Arsène Lupin continue elle aussi. La nouvelle série Netflix avec Omar Sy booste les ventes du gentleman cambrioleur. Arsène Lupin, créé en 1905 par Maurice Leblanc, 18 romans, 39 nouvelles et notamment l'épisode le plus connu, L'Aiguille Creuse, publiée en 1909. L'Aiguille Creuse, c'est à Étretat, vous savez, le bout de la falaise blanche. Elle serait donc creuse, cette aiguille, et renfermerait un trésor fabuleux, rien de moins que la fortune des rois de France. Voici la première page, lue par le gentleman Philippe Dussault.
Chapitre 1, le coup de feu. Raymond prête à l'oreille, de nouveau, et par deux fois le bruit se fit entendre. Assez net pour qu'on pût le détacher de tous les bruits confus qui formaient le grand silence nocturne, mais si faible qu'elle n'aurait su dire s'il était proche ou lointain, s'il se produisait entre les murs du vaste château ou dehors, parmi les retraites ténébreuses du parc. Doucement, elle se leva. Sa fenêtre était entr'ouverte, un écarta les battants. La clarté de la lune reposait sur un calme paysage de pelouses et de bosquets où les ruines éparses de l'ancienne abbaye se découpaient en silhouettes tragiques, colonnes tronquées, ogives incomplètes, ébauches de portiques et lambeaux d'arc-boutants. Un peu d'air flottait à la surface des choses, glissant à travers les rameaux nus et immobiles des arbres, mais agitant les petites feuilles naissantes des massifs. Et soudain, le même bruit. C'était vers sa gauche, et au-dessous de l'étage qu'elle habitait, par conséquent dans les salons qui occupaient l'aile occidentale du château. Bien que vaillante et forte, la jeune fille sentit l'angoisse de la peur. Elle passa ses vêtements de nuit et prit les allumettes. « Raymonde ! Raymonde !» Une voix faible, comme un souffle, l'appelait de la chambre voisine dont la porte n'avait pas été fermée. Elle s'y rendait à tâtons lorsque Suzanne, sa cousine, sortit de cette chambre et s'effondra dans ses bras. « Raymonde, c'est toi, tu as entendu ?»« Oui,
Tu ne dors donc pas ?
Je suppose que c'est le chien qui m'a réveillé il y a longtemps, mais il n'aboie plus. Quelle heure peut-il être ?
4 heures environ.
Écoute, on marche dans le salon !
Mais il n'y a pas de danger, ton père est là, Suzanne.
Mais il y a du danger pour lui, il couche à côté du petit salon.
Monsieur Daval est là aussi.
À l'autre bout du château, comment veux-tu qu'il entende ?
Elles hésitaient, ne sachant à quoi se résoudre. Appeler ? Crier au secours ? Elles n'osaient, tellement le bruit même de leur voix leur semblait redoutable. Mais Suzanne, qui s'était approchée de la fenêtre, étouffa un cri.
« Regarde ! Un homme près du bassin !»
14h-15h sur Europe 1,
La Voix est libre.
C'était la première page de L'Aiguille creuse, lue par Philippe Dussault. Bernard Pivot, vous avez un livre culte, vous, ou pas ? C'est pas obligé, hein ?
Alors, culte, je comprends très bien ce terme. D'ailleurs, sur France 2, il y a de temps en temps une rubrique sur culte. On voit culte.
Parce que j'aime pas dire classique.
Oui, c'est ça. Mais enfin, oui, non, mais pourquoi pas culte ? Alors, culte, je dirais, je peux changer. Hein.
Oh, oui.
Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire Vendredi ou Les Limbes du Pacifique de Michel Tournier.
Pourquoi ?
Ben parce que j'ai été très impressionné quand j'ai lu ce livre. Je connaissais Michel Tournier, qui était une sorte de super attaché de presse chez Plon. Et j'ignorais absolument qu'il allait publier un livre. Et quand je l'ai lu, j'ai été stupéfait par la qualité, par l'originalité, la force de ce livre. Alors c'est assez intéressant parce que c'est très rare de connaître un personnage, de le connaître comme ça un petit peu, hein, mais, et puis d'apprendre qu'il va publier un livre. Et il le publie et vous vous dites mais c'est un chef-d'œuvre, mais c'est incroyable, ça n'arrive pratiquement jamais ça. Mmh. Et ça c'est un grand souvenir pour moi, c'est que Michel Tournier, ben, il était insoupçonnable. Je rencontrais comme ça pour recueillir des informations chez Plon. On bavardait 2 minutes, mais jamais il m'a dit qu'il écrivait. Jamais. Et d'un seul coup, ce type-là, comme ça, qui est si banal, eh bien voilà, il vous sort un chef-d'œuvre. Donc pour moi, c'est un livre culte.
À suivre, visite de bibliothèque. Cette semaine, nous partons chez Jean-Louis Fournier. C'est pour tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre de l'écrivain Jean-Louis Fournier. On lui doit « Où on va papa ?», « La grammaire française est impertinente ». Son dernier livre s'appelle « Merci qui ? Merci mon chien ?» Chez Buchet-Chastel, une déclaration d'amour aux animaux. C'était l'occasion donc de visiter sa bibliothèque. Allons-y. Bonjour Jean-Louis Fournier.
Bonjour monsieur.
Merci de nous recevoir chez vous. Juste, je voudrais quand même qu'on évacue quelque chose d'entrée. Aucun lien avec Alain Fournier.
Ah non, non, non.
Molne.
Non, mais cela dit, s'il y a un lien, c'est que j'ai fait un bouquin qui n'est pas très connu, mais j'ai écrit Le Petit Molne. Parce que j'avais souvent des crétins dans des salons du livre qui venaient me demander si j'avais écrit Le Grand Molne. Alors au bout d'un moment, j'ai dit je vais leur écrire Le Petit Molne. Comme ça, ils ne seront pas trop déçus. Et j'ai fait un bouquin qui s'appelle Le Petit Molne. C'est l'histoire du frère. J'ai inventé le frère du grand Molne.
Ah, c'est bien.
Et qui dit du mal de son grand frère, qui est une espèce de grand romantique à la con. Et le frère, c'est un petit salopard. Et c'est assez rigolo. Et ce n'est pas complètement absurde parce que j'ai relu dans Le Grand Molne que quand Alain Fournier parle d'Augustin, qui est le grand Molne, il avait un petit frère qui est mort en bas âge. Et je raconte que finalement, il n'était pas mort en bas âge, le petit frère. Et c'est lui qui raconte la vie du grand monde.
Je vais décrire quand même un peu là où on est, parce qu'on est à la radio. On est dans une pièce tout en haut de votre petite maison. Il y a d'un côté trois murs remplis de bibliothèques. Et puis de l'autre côté, il y a un petit coin salon télé. Mais il y a une petite table au centre avec des livres posés dessus. Est-ce qu'ils ont une importance particulière ou ils sont en attente de rangement ?
Non, ils ont un truc particulier parce que c'est des choses que j'ai envie de faire. C'est sur des bouquins que je suis en train d'écrire. Par exemple, j'ai voulu relire Les Pensées de Pascal. Mais j'ai pas tout.
Non, vous avez pas. Ça vous a pas.
C'est un petit peu dur. Ça, c'est BRS. C'est des filles avec qui j'étais. Un salon du livre.
Et alors, il y a Houellebecq qui est là, et j'en ai vu beaucoup des Houellebecq.
Je l'aime bien, évidemment, c'est un type... Puis en plus, je l'aime d'autant plus que je viens de faire un bouquin sur les animaux, et que Houellebecq est un fou d'animaux.
C'est un des seuls prix auxquels il participe, d'ailleurs.
Et ils m'ont sélectionné pour le prix des 30 millions d'amis. et j'ai vu qu'il était, il est un des personnages importants dedans. Et le fait qu'il a, il avait un chien qui s'appelait Clément, c'est ça, qui est mort, ça a été un drame pour lui, ça. Et je comprends ça, la perte d'un animal, c'est un truc terrible.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres de Pierre Desproges. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, voilà, il y avait la minute nécessaire de Monsieur Cyclopène, mais plein d'autres choses. C'était quoi votre rapport avec Pierre Desproges? Vous étiez les meilleurs amis du monde?
Notre relation, elle est... c'est apparu un soir, un repas, je ne le connaissais pas très bien, j'avais un peu entendu parler de lui, il n'était pas encore très très connu, et les flagrants délires étaient en train de démarrer. On a parlé de télévision, on était des gens de télé qui étaient là, et puis à un moment, tout le monde a dit « Oh, la télévision, c'est dégueulasse, c'est de la merde, comme on dit d'habitude.
» Tout en faisant partie du truc, quoi.
Ouais, c'est ça. Et des proches a dit « Non, il ne faut pas dire du mal de la télé, tout n'est pas mauvais, il y a un truc formidable, c'est l'histoire d'un oiseau qui a le vertige. »
C'était vous ?
Qui s'appelle Antivol. Et je lui dis, c'est moi qui... J'étais vachement content, j'étais fier. Et on est devenus copains à partir de là.
Vous aviez déjà le même état d'esprit, le même humour, la même vision ? Ou alors moi, c'est parce que vous êtes côtoyé ?
On avait le même, oui, la même façon de voir les choses. Une espèce de sensibilité à fleur de peau, quoi, d'écorché vif, quoi, de gens...
D'humour désespéré,
un peu. Et qui faisaient semblant d'être méchants. Et puis moi, je l'aimais beaucoup, je trouve que c'était un type... Il avait des qualités humaines formidables. Il était naturel, il racontait pas de blagues, il faisait pas semblant d'aimer les gens. C'était un mec authentique. Puis il avait des idées formidables. Moi, j'étais admiratif de lui.
Bon, il y a beaucoup de choses dans la bibliothèque. On ne sait pas tellement par où commencer parce que tout est un peu...
Oh là
tous
là,
les genres sont mélangés.
Très bien.
Il y a Le désert des Tartares de Dino Buzzati.
Ah, voilà. Ça, c'est mon livre de chevet.
Ah, pourquoi ? Alors, c'est une vieille édition poche magnifique.
Ah, parce que c'est pour moi l'allégorie la plus extraordinaire de la vie. C'est que finalement, on passe son temps, comment dire, à attendre des choses extraordinaires. Et puis finalement, il n'arrive pas de choses extraordinaires. Il n'y a qu'une chose extraordinaire qui va nous arriver, c'est qu'on va mourir. Et c'est ça, ça raconte ça. Et c'est génial. C'est ça, l'arrivée des Tartares. Les Tartares arrivent quand le mec, il va mourir. C'est formidable.
Et alors, il est tout crayonné, votre exemplaire de Dino Buzzati, des Tartares. Ben, c'est joli, hein, c'est crayonné au bic et ça forme une sorte de visage sur la page de garde.
Ah, mais c'est un ami qui m'a fait ça. Ah, c'est beau d'ailleurs, oui.
Bah dis donc, vous lui avez prêté votre livre et vous a rendu comme ça.
Ah bah alors c'est marrant parce que je ne me souvenais plus du tout qui c'est qui m'a fait ça. C'est assez joli, oui.
Vous relisez les livres, y compris
oui,
ceux que vous adorez ?
Oui, oui, oui. Souvent, je redécouvre des bouquins qui m'avaient enchanté. J'aurais toujours les mêmes. Mais...
Oh, il y a une vieille édition de Oh les beaux jours de Samuel Beckett, la pièce de théâtre, dans lequel il dit, justement, on dit tout. Tout ce qu'on peut et pas un mot de vrai nulle part.
Ah, c'est formidable ça.
C'est encore très moderne. Ça.
Mais ça, je l'ai parce que je suis ami avec Catherine Fro et elle l'avait joué.
Ah.
Et je l'avais relu à l'occasion.
Il y a plein de choses et il y en a un qui m'a attiré l'œil tout à l'heure. Une vieille édition aussi d'un livre qui n'est pas connu du tout qui s'appelle Les Contes du Far West de O. Henry. O, juste la lettre, Henry, qui était un novelliste américain. Dans les années 20,
connu,
je crois,
hein,
une sorte de voyou devenu écrivain,
connu,
et qui est connu pour avoir des fins de nouvelles extraordinaires. Effectivement, quand on lit ces nouvelles,
ouais.
À la fin, on est complètement retourné.
Mais alors, je ne sais pas d'où il vient du tout, ce livre-là. Alors là, vraiment, parce qu'il y en a qui datent de 50 ans, certains livres. Hein,
ça, c'est encore une vieille édition livre de poche avec les très belles couvertures. Ouais. Vous aimez bien l'objet livre ? C'est quoi votre rapport avec l'objet ? Est-ce que vous cherchez quand même les belles couvertures, etc.
Je m'en fous un peu de la boîte, tout ce qu'il y a dedans, je m'en fous de... Non, ce que j'aime bien, c'est les livres des humoristes. Là, tout à l'heure, j'avais le bouquin de Chaval et tout ça. J'aime bien, j'aime beaucoup les humoristes, les dessins d'humoristes. Là, il est très très beau, ça, celui-là. C'est une édition. Regardez les dessins à l'intérieur.
Alors ça, c'est Chaval. Vous nous dites qui est Chaval, quand même. Vous nous rappelez ?
Les oiseaux sont des cons, ça. Puis j'adore le titre.
Oui, alors effectivement, la couverture est assez sobre.
Non, non, juste... Et puis c'est l'intérieur. Les dessins sont exceptionnels.
Un oiseau blasé en noir et blanc. Et à l'intérieur, voilà, c'est les oiseaux sont des cons. Alors c'était qui Chaval ?
C'est de l'absurde total, mais il y avait surtout, au niveau plastique, c'est très très fort, les dessins qu'il fait.
Il y a un petit côté, pardon si je dis une énormité, mais un petit côté Shadok.
Ah bah c'est pas loin du tout.
Des traits comme ça, rapides.
Ah ouais, non, c'est...
Vous aimez travailler avec des auteurs ?
Bah, moi j'aime bien, si vous voulez, quand quelqu'un m'envoie quelque chose d'intéressant, je me dis, tiens, si je peux l'aider à le monter, ça me... Maintenant c'est surtout sur des manuscrits de livres. Moi, si vous voulez, je me comporte avec les manuscrits comme avec les jardins. Je trouve qu'un texte, c'est comme un jardin et tous les jardins qu'on propose, il y a plein de mauvaises herbes dedans. Et j'aide les gens à retirer les mauvaises herbes. à nettoyer.
Et donc vous mettez le nez dedans et tout, vous allez...
Le jardin pour que les fleurs soient plus en valeur. Parce que je m'aperçois que quand on écrit, on met trop de mots, on met trop de choses. Des cependant, des parce que, des trucs comme ça. Je fais nettoyer le jardin. Je corrige les manuscrits avec un sécateur. Par rapide exemple, comme du langage parlé.
C'est quoi sur un texte que vous avez vraiment travaillé et qu'on connaît un peu aujourd'hui
C'était surtout dans l'encyclopédie plutôt que dans des bouquins. Parce que les bouquins, c'est sur des petites phrases. C'est pas des, je ne peux pas vous citer des exemples entiers. C'était un que par-ci, c'était un truc par-là. Parce que Pierre, il a tendance... On était l'inverse. Moi, j'avais un tailleuré. Lui, c'était au contraire. Il était baroque et luxuriant.
Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai.
Moi, j'ai essayé de couper un peu dans tout ça parce que c'était étouffant. Il y a des livres, il faut rentrer dedans avec un sécateur. Hein, parce qu'on n'arrive pas à passer.
Ouais, on vous souhaite un bon jardinage, Jean-Louis Fournier. Merci beaucoup de nous avoir reçus.
Merci à vous.
De retour en studio, et je rappelle le titre du livre de Jean-Louis Fournier, Merci qui, merci mon chien, chez Buchet-Chastel. Bernard Pivot, alors d'habitude, après cette séquence, je demande à mon invité comment est rangée sa bibliothèque. Mais là, j'ose à peine, parce que depuis que cette émission existe, je vous demande, Bernard Pivot, régulièrement de m'ouvrir les portes de votre bibliothèque. Forcément, vous êtes l'homme libre. Et à chaque fois, je me fais engueuler. Je me fais traiter d'indiscret. Alors, je vous pose quand même la question, elle est rangée comment, votre bibliothèque?
Elle est rangée par ordre alphabétique. Hein. Toute la littérature est rangée par ordre alphabétique.
Vous dites ça comme une évidence, alors, mais personne ne la range.
Alors, écoutez, là, je peux vous parler de ma bibliothèque, parce que je n'en ai pas eu pendant quelques jours, parce que je viens de déménager. Et donc, je me suis séparé d'un livre sur deux, parce qu'il y en avait beaucoup trop, on en garde toujours beaucoup trop, même si j'en emmène dans ma maison de campagne. Et donc, j'ai réinstallé. Ce sont mes filles qui m'ont aidé à réinstaller les livres que j'ai gardés dans la bibliothèque. Et il y a même une photo qui est parue dans le journal du dimanche, il y a 15 jours, pour mon livre, où j'ai posé devant la bibliothèque 100 livres. Ouais. Elle était nue.
C'est la seule manière de visiter votre bibliothèque, voilà, quand il n'y a plus de livres dedans.
Voilà, il n'y avait plus de livres dedans. C'est extraordinaire. J'ai dit au photographe du journal du dimanche, ah, vous avez une chance extraordinaire parce que d'habitude, on prend toujours ma photo devant des bibliothèques bourrées de bouquins et là, il n'y a plus rien. Et donc, si vous voulez savoir, les livres, tout ce qui est littérature générale, français et étrangère, c'est classé par ordre alphabétique. Voilà, parce que c'est le plus simple pour s'y reconnaître. Comment voulez-vous vous y reconnaître?
En fait, tout à l'heure, je plaisantais un peu en disant que vous m'engueuliez. Enfin, c'est vrai que vous m'engueulez à chaque fois que je vous pose la question de savoir si je peux venir dans votre bibliothèque. Mais en fait, c'est le principe de cette séquence. C'est très impudique. Mais oui. Je suis toujours, moi, étonné, au contraire, que les gens acceptent.
Non, mais
ça ne m'étonne pas, finalement, que vous n'acceptiez pas.
Mais oui, mais c'est une impudeur totale. Je veux dire, vous entrez dans mon âme. Vous entrez dans mon moi intérieur. Vous entrez dans tout ce que j'ai accumulé de préférences, de défiances. Alors, en plus de ça, c'est aggravé par le fait qu'il y a des livres à la campagne, dans la maison de campagne, et donc, elle n'est pas représentative de tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai aimé. Mais, en dehors de ça, je trouve que c'est d'une indiscrétion incroyable, quoi. C'est comme me demander, vous voulez pas m'ouvrir votre armoire avec vos vêtements, et pourquoi pas
votre
pendant
sac.
Que vous y êtes.
Je retenterai quand même, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, restez avec nous dans un instant, plein d'autres livres, il est l'heure des libraires, ça vous aimez, Bernard Pivot, à tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire pour un conseil. Des conseils, nous partons à la librairie La 25e Heure à Paris, 15e, rejoindre le talentueux Christophe Daniel. Bonjour Christophe Daniel.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir à La 25e Heure. On a trois coups de cœur, donc on fait vite.
On fait vite. Alors on commence avec un roman chez Actes Sud d'un auteur allemand qui s'appelle Norbert Schoer. Et le titre de son roman, c'est « Les abeilles d'hiver ». Alors là, on est dans un petit village en Allemagne, près de la frontière belge. Et on va suivre un personnage qui était professeur de latin et d'histoire et qui a été sa carrière s'est arrêtée sous le régime nazi parce qu'il est épileptique. Donc c'est un peu une chronique de l'arrière sous forme de journal. Ce monsieur a une passion en plus du latin, c'est les abeilles. Il est apiculteur. Donc il s'occupe de ses ruches et il passe ses journées en bibliothèque pour traduire des vieux textes latins. Et alors il passe aussi ses journées en bibliothèque parce que c'est un lieu où il échange pour faire échapper des juifs qu'il cache dans des ruches spécialement aménagées et il leur fait franchir la frontière. Voilà, ce type-là, je voudrais dire juste que c'est ni un héros ni un salaud, c'est un homme sans qualité, mais avec vraiment un ton, une écriture.
C'est ce qui fait souvent les meilleurs romans d'ailleurs.
Voilà.
Ensuite, Eric Fotorino, vous m'avez dit ça, j'ai beaucoup aimé.
Oui, alors Eric Fotorino, le livre s'appelle Marina A, c'est chez Gallimard. Marina A, c'est cette artiste performeuse serbe, Marina Abramović. Donc, le roman met en scène un docteur qui est en vacances à Florence avec sa famille. Et là, il voudrait évidemment faire visiter les musées et faire voir les tableaux à sa fille, notamment des plus grands peintres italiens. Et tout à coup, il va être happé par des photos, des publicités pour cette performeuse Marina Abramović, qu'il ne connaît pas du tout. Il va se renseigner sur elle, il va voir ses performances qui sont assez particulières. Elle le met en scène de façon assez extrême, notamment son corps. Elle a longtemps fait des performances avec son compagnon Oulai, qu'on voit sur le bandeau du livre. Et voilà, c'est un livre de réflexion sur l'art, de réflexion... Comment une artiste peut vous faire voir le monde de manière différente.
Marina A, chez Gallimard, Eric Fotorino, qu'on aime beaucoup, à la voix et livre. Et alors, là, vous avez aussi un gros coup de cœur d'un auteur que j'aime beaucoup. On avait, évidemment, on se souvient de Cas au calme,
magnifique
dernier
roman,
grand succès. C'est Sandro Veronesi, ça s'appelle Le Colibri, cette fois.
Voilà. Alors, Le Colibri, qui est-ce ? C'est un monsieur qui s'appelle Marco Carrera, qui est ophtalmologue à Rome. Et au moment où le roman démarre, il reçoit un coup de téléphone du psychanalyste de sa femme. Ce psychanalyste lui dit que... en l'appelant, il brise toutes les règles de la déontologie, mais il veut le prévenir qu'il est en grand danger. Évidemment, ça va un peu bousculer la vie de Marco Carrera. Et cette vie, il va nous la raconter avec les drames qui ont ponctué son enfance, les relations difficiles avec parents, avec une femme qu'il a épousée, alors qu'il en aimait une autre. Voilà, c'est
on ne sait pas quel est le grand danger au départ.
On ne sait pas quel est le grand danger au départ et on va l'apprendre au fil des pages. La narration est très particulière parce qu'elle est particulière dans le temps. Il y a des allées et venues dans le passé, le présent et aussi et dans la forme parce que ça commence donc par ce dialogue qui est uniquement une conversation, mais il y a aussi des échanges de mails, des échanges de lettres. C'est écrit aussi sous la forme de journal parfois. C'est virtuose, brillant. C'est un très beau roman d'amour et de résilience aussi.
C'est vrai que chez Sandro Veronesi, il y a un plaisir de lecture total aussi. C'est très simple, ça coule, quoi.
Ouais. Et puis il y a aussi, à des moments plutôt inattendus, une façon assez humoristique, une distance et une bienveillance pour son lecteur qui est évidente à la lecture du Colibri.
On récapitule, donc Sandro Veronesi, Le Colibri, c'est chez Grasset.
Exactement.
On a Eric Fotorino, Marina A, chez Gallimard.
Et Norbert Schoer, Les Abeilles d'hiver, chez Actes Sud.
Parfait. Merci beaucoup, Christophe.
Merci, Nicolas.
À bientôt. Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, c'est une BD, Les Indésirables, de Kikou Hughes.
Oui, Kikou Hughes, exactement. Kikou est une jeune adolescente d'origine japonaise. Elle a gardé son prénom, parce que c'est vraiment autobiographique. Elle est à San Francisco en vacances avec sa mère quand une chose très étrange se produit. Assise sur un banc, elle entend des notes de musique. Une brume épaisse enveloppe la ville et soudain, Kikou se retrouve transportée dans un tout autre espace-temps. Au début des années 40, toujours aux États-Unis, elle suit d'abord sa grand-mère à un concert de violon, puis se retrouve dans une file d'attente remplie de migrants japonais qui vivent aux États-Unis, des migrants déportés de force pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vous êtes sûr que c'est autobiographique ?
Non, c'est autobiographique, je veux dire, c'est l'histoire de sa famille, mais d'accord, c'est pas autobiographique. Elle, c'est effectivement, elle regarde l'histoire de sa grand-mère, vous
et
allez
alors,
comprendre.
Elle reste coincée dans le passé ou elle revient quand même ?
Alors, Alors, au début, ce ne sont que des brefs allers-retours, comme des images du passé, de sa famille. Elle voit sa grand-mère sans jamais lui parler. Mais la dernière fois qu'elle se retrouve projetée en 1940, elle a une étiquette attachée à son manteau avec un numéro. Cette fois, elle est bel et bien coincée dans le camp de Tanforan avec d'autres nippo-américains. Découvre cette vie si particulière, les privations de liberté, les journaux clandestins qui circulent dans le camp, les divisions aussi entre les Issei, les Japonais nés au Japon qui ont émigré par la suite, et les Nisei, les immigrés de deuxième génération.
Ah ouais, c'est ardos quand même. Question rituelle justement, à quel âge, à partir de quel âge on peut lire cette très très belle BD d'ailleurs?
Alors,
j'ai pas dit, mais
sans
c'est
problème
beau.
À partir de 13-14 ans, mais comme on le dit souvent dans cette émission, et vous le dites aussi très régulièrement Nicolas, la frontière est ténue entre le monde des adolescents et les jeunes adultes, donc c'est aussi une bande dessinée qu'on peut lire plus tard. Un fantastique travail vraiment sur une partie de cette histoire mal connue en France, avec cette force aussi incroyable de ces binationaux qui ont trouvé le moyen de continuer à travers l'instruction et la culture, car dans ces camps, des maîtresses continuaient à instruire les enfants. Même si aujourd'hui, 70 ans plus tard, cette histoire a laissé beaucoup de traces et effacé des pans entiers de la culture japonaise aux États-Unis, avec aussi ce message très fort de l'auteur, l'importance de la mémoire, surtout dans une période politique américaine aussi troublée, Trump, le mur de la honte. Kiku Hughes nous répète qu'il faut se souvenir toujours pour ne pas répéter les mêmes erreurs.
Et on rappelle le titre, Les Indésirables de Kiku Hughes. C'est aux éditions, très belles éditions, Rue de Sèvres, grand format en plus. Merci beaucoup Victor.
Merci Nicolas.
Et vous Bernard Pivot, quel est le premier roman que vous avez lu?
Écoutez, vous allez protester, vous allez me maudire, etc. Mais c'est pas un roman. Enfin, c'est pas.
C'est le dictionnaire.
J'ai lu Le Petit Larousse. C'était. Vous savez, je suis né en 35. Donc, de 40 à 45, j'étais dans le Beaujolais, dans une petite maison avec ma mère, mon frère, mon père étant prisonnier de guerre. Et donc, on n'avait pas de livres. On n'avait pas de livres. En dehors des livres scolaires, parce que j'ai appris à lire et à écrire dans cette commune de Quincy en Beaujolais. Et j'avais des Fables de La Fontaine et puis une vieille édition du Petit Larousse. Et donc le premier roman que j'ai lu, c'est Le Petit Larousse. Parce que c'est un roman, un dictionnaire, c'est un roman. Vous imaginez, chaque fois que vous découvrez un mot que vous ne connaissez pas, et votre esprit s'en va. Il est capté par ce mot. Il vous irrite, soit il vous séduit. Lire un dictionnaire, c'est ouvrir des portes considérables, des aventures inouïes. Moi, je sais pas comment. Je pense que c'est le roman évidemment que j'ai le plus lu, parce que je l'ai lu que j'ai dû apprendre à lire, j'avais 6 ou 7 ans, jusqu'à 10 ans, 11 ans, donc je l'ai lu pendant 3 ans ou 4 ans, etc. Et le goût des mots que j'ai toujours eu, qui m'a fait faire des dictées d'ailleurs à la télévision, eh bien je l'ai acquis, ce goût des mots, dans la lecture de ce Petit Larousse.
Vous écrivez avec un dictionnaire posé sur votre bureau ou pas?
Oui. Ouais. Oui, toujours.
Et donc y compris pour...
Oui, parce qu'il y a plein de choses, à cause de l'âge, que j'oublie, et puis parce que je sais pas tout, et j'ai envie de, par exemple, savoir un mot, son orthographe ça va encore, mais surtout exactement son sens exact, ça c'est très 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 important, et donc avoir le Petit Larousse ou le Petit Robert à côté de soi pour justement pour ne pas commettre d'erreurs.
Et Larousse ou Robert qui a servi à écrire Mais la vie continue chez Albin Michel. Merci beaucoup Bernard Pivot.
C'est moi qui vous remercie.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.